Mulher dizer.
Bonsoir à toutes et à tous. Tout le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 18 juillet 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Ici, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump prend la parole ce soir à la convention républicaine à Milwaukee pour accepter formellement sa nomination en tant que candidat républicain à la présidentielle. Le président Joe Biden met une pause à sa campagne malade du Covid. Il est en isolement. Au Rwanda, le président Paul Kagame a été réélu avec 99,18% des voix pour un quatrième mandat. Les Nations Unies appellent les autorités centrafricaines à mettre en place des mesures urgentes pour garantir le respect des droits humains dans les prisons. L'ANSF a voté contre la création d'un État palestinien présente comme une menace à l'existence d'Israël. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump prend la parole ce soir à la convention républicaine à Milwaukee pour accepter formellement sa nomination en tant que candidat républicain à la présidentielle. Les détails avec Dilly Dico, notre envoyé spécial à Milwaukee.
Donald Trump va donner ce soir, devant quelques 50 000 spectateurs, les grandes lignes de son programme, et le thème de cette dernière journée est centré autour du slogan « Make America Great Again », rendre à l'Amérique sa grandeur. Cette année, le candidat républicain espère gagner avec la promesse d'une Amérique prospère, sécurisée et forte, les sujets favoris des trois premiers jours de la convention, où presque tous les orateurs ont insisté sur l'immigration, la criminalité et la sécurité garantie par une Amérique forte. L'autre moment fort de la convention a été le premier grand oral de J.D. Vance, choisi pour être le colistier. Le jeune élu de 39 ans, opposé à l'aide à l'Ukraine et tenant un discours anti-immigration, deviendra vice-président des États-Unis si Donald Trump l'emporte en novembre. La convention s'achève ce soir avec une grande fête, avec lâcher de ballons rouges, blancs et bleus. Rassuré sur l'unité du parti républicain, Donald Trump va repartir en campagne. Il a prévu un meeting samedi dans l'État du Michigan, une semaine exactement après les tirs qui l'ont visé en Pennsylvanie. Dilly Dico, VOA Afrique, Milwaukee.
Joe Biden, atteint du Covid, a été contraint aujourd'hui de s'isoler et mettre sur pause sa campagne. Le virus n'est que le dernier en date à venir bouleverser les plans du démocrate de 81 ans en convalescence en bord de mer dans sa résidence privée du Delaware dans l'est des États-Unis. Selon les médias américains, les leaders démocrates au Congrès, Chuck Schumer et Hakeem Jeffries, ont tous deux dit au président lors des rencontres séparées que sa candidature pourrait mettre en péril les chances du parti en novembre. Quant à la très influente Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, elle aurait affirmé à M. Biden qu'il ne pouvait pas gagner selon les sondages et qu'il risquait de faire perdre la Chambre démocrate. Déjà mercredi, l'élu de Californie, Adam Schiff, avait exhorté M. Biden à passer le flambeau. Une vingtaine d'élus de la Chambre et un sénateur ont jusqu'ici pressé Joe Biden de jeter l'éponge.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président rwandais Paul Kagame a été réélu avec 99,18% des voix pour un quatrième mandat. Ce résultat annoncé par la Commission électorale nationale prolonge son règne pour 5 années. Les détails avec Nani Talani.
Le chef de l'État sortant, 66 ans, réalise un score encore supérieur à ses 98,79% de la présidentielle de 2017. Selon la Commission électorale nationale, le taux de participation était de 98,20% sur les 9 millions d'électeurs inscrits. Les résultats définitifs des élections doivent être annoncés au plus tard le 27 juillet. Ses deux concurrents ont reconnu leur défaite, Franck Habineza du Parti démocrate vert et l'indépendant Philippe Païmana ont obtenu respectivement 0,50% et 0,32%. Pour les législatives, le FPR au pouvoir a raflé 68,83% des voix. Ses alliés des partis libéraux et social-démocrates ont obtenu respectivement 8,66% et 8,62%. Les autres partis n'ont pas franchi le seuil de 5%, dont le parti de M. Habineza, qui devrait perdre ses deux sièges. Crédité du spectaculaire redressement économique du Rwanda après le génocide dont il a mis fin en 1994, Paul Kagame est aussi critiqué pour le manque de démocratie dans son pays.
En République démocratique du Congo, les fronts du conflit entre le M23 et les FARDC ont été relativement calmes jeudi. Après l'annonce par Washington de 15 jours de trêve humanitaire, ont indiqué des sources locales. Vers le front sud, quelques tirs ont été signalés dans le territoire de Masisi, mais pas de combat entre les deux camps. Cette prolongation sera en vigueur jusqu'au 3 août et engage les belligérants à faire taire leurs armes et à fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables, précise un communiqué du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Un tribunal kényan a suspendu jeudi l'interdiction des manifestations dans le centre de la capitale Nairobi, décrétée la veille par la police après des manifestations antigouvernementales meurtrières. Le pays est secoué depuis la mi-juin par des manifestations contre des projets de hausse d'impôts du gouvernement abandonnés depuis. Initialement pacifiques, les rassemblements ont dégénéré en violences qui ont fait au moins 50 morts depuis le 18 juin. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa présente aujourd'hui les orientations de son nouveau gouvernement lors de la rentrée parlementaire. Ce discours est vraiment un moment historique puisqu'il intervient dans des circonstances uniques et complexes, a déclaré mercredi le président du Parlement Toko Didiza. Après des semaines de négociations difficiles, le parti a formé une coalition gouvernementale avec 10 autres groupes, s'alignant avec le centre droit, ce qui, selon certains analystes, devrait rassurer les investisseurs. Les Nations Unies appellent les autorités centrafricaines à mettre en place des mesures urgentes pour garantir le respect des droits humains dans les prisons en RCA. Selon leur rapport, torture, mauvais traitements, entre autres, sont fréquents. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
Des milliers de personnes sont détenues dans des lieux de détention surpeuplés à travers le pays, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau, à l'assainissement et aux soins de santé de base. C'est ce que révèle le rapport qui porte sur l'année 2023, insistant sur la tendance de l'armée et des forces de sécurité en République centrafricaine à procéder à des arrestations et détentions illégales et arbitraires. Selon l'ONU, à la fin de l'année 2023, 1749 détenus attendaient d'être jugés, certains depuis presque 6 ans. La malnutrition, le manque de soins de santé appropriés et les conditions d'hygiène déplorables ont provoqué la transmission de maladies en prison, poursuit l'ONU qui déplore le manque de ressources mises à disposition des détenus. Le communiqué exhorte à des mesures urgentes et concrètes de la part des autorités nationales pour faire face à ces problèmes. L'ONU dit voir, dans le contexte de la réforme du système pénitentiaire en cours dans le pays, une occasion de s'attaquer à ces violations des droits humains.
Le Parlement israélien a adopté la nuit dernière une résolution s'opposant à la création d'un État palestinien à quelques jours d'une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington. Claire Morin-Gibourg.
Cette résolution entérine une fois de plus que la Knesset s'oppose fermement à la création d'un État palestinien en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. 68 élus ont voté pour, 9 contre. Le texte ajoute que la création d'un État palestinien va constituer un danger existentiel pour l'État d'Israël et va perpétuer le conflit israélo-palestinien et déstabiliser la région. Il n'y aura ni paix ni sécurité pour qui que ce soit sans l'établissement d'un État palestinien, a réagi l'autorité palestinienne qui accuse la coalition au pouvoir en Israël de plonger la région dans l'abîme. La France a exprimé sa consternation, affirmant que seule la solution à deux États est à même d'apporter une paix juste et durable dans la région. Benjamin Netanyahou doit se rendre lundi à Washington pour rencontrer le président Joe Biden. Il va s'exprimer mercredi devant les élus du Congrès.
Joe Biden doit recevoir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui sera la semaine prochaine à Washington, mais cette rencontre dépendra de si le président américain sera remis du COVID-19. C'est ce qu'a fait savoir la Maison-Blanche jeudi. Faisons la Minute Éco avec Eric Manilakiza.
Au Nigeria, le président Bola Tinubu a approuvé un salaire minimum de 70 000 naira pour les travailleurs nigériens et a promis de revoir la loi sur le salaire minimum national de tous les 3 ans, a annoncé Bayo Onanuga, conseiller pour les médias du président. Cette décision s'applique aux employés fédéraux, aux fonctionnaires, au personnel des aéroports et aux enseignants du public. Le salaire minimum était jusque-là de 30 000 naira, environ 17 euros. Les syndicats réclamaient de le porter jusqu'à 250 000 naira, environ 141 euros. Le conseil d'administration du FMI a validé mercredi le versement immédiat de 70 millions de dollars à destination du Niger. Il s'agit de la 4e et 5e revue du programme d'aide actuellement en cours, qui devrait permettre un déboursement de 26,1 millions de dollars. L'accord porte également sur la première revue dans le cadre du Fonds de résilience et de durabilité pour 45,3 millions de dollars supplémentaires. Les revenus du canal de Suez en Égypte ont baissé de 23,4% à fin juin par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7,2 milliards de dollars sur l'exercice 2023-2024, suite aux répercussions de la crise en mer Rouge, a annoncé jeudi l'autorité du canal. L'exercice financier en Égypte s'étend de début juillet à fin juin de l'année suivante.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
Alors Serou Girassi signe avec Dortmund jusqu'en 2028.
Oui, le Borussia Dortmund a officialisé l'arrivée de l'attaquant guinéen, convoité de longue date par le club allemand. Après une excellente saison à Stuttgart, Serou Girassi s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec le Borussia, qui a déboursé 18 millions d'euros pour sa clause libératoire, d'après les médias allemands. Le transfert du joueur de 28 ans avait d'abord été retardé en raison d'une blessure découverte pendant la visite médicale début juillet, qui a nécessité des examens complémentaires. Mais Dortmund a précisé sur son site que la blessure n'entraînerait pas d'opération et les médecins du club estiment que Girassi pourra être opérationnel cet été après une remise à niveau. Avec 28 buts pour autant de matchs à disputer, le Guinéen a fini meilleur buteur de la saison. Derrière l'anglais Harry Kane du Bayern Munich, Girassi retrouve à Dortmund l'ivoirien Sébastien Haller.
Toujours sur le marché des transferts, Pierre-Emerick Aubameyang rejoint Al-Kassir.
L'attaquant gabonais de 35 ans, qui a officialisé hier son départ de l'Olympique de Marseille, va signer à l'équipe saoudienne d'Al-Kassir, selon les deux clubs. Protégez vos filets, la panthère noire est là, a réagi le club saoudien, juste promu en première division sur son compte Instagram, en référence au surnom de Pierre-Emerick Aubameyang. Sur ex, l'OM a remercié son désormais ex-joueur, toujours souriant et travailleur, qui a brillé par son talent au cours de l'exercice 2023-2024. Aubameyang était arrivé libre à Marseille à l'été 2023 en provenance de Chelsea. Malgré une saison décevante de l'OM avec une 8e place en championnat et de multiples changements d'entraîneur, l'attaquant gabonais a surnagé avec 30 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues.
Et enfin, 8 mois de prison pour des insultes racistes visant Vinicius et Rudiger.
Le condamné, sous couvert de plusieurs pseudonymes, avait lancé des attaques et des insultes racistes visant Vinicius Junior et Antonio Rudiger, deux joueurs du Real Madrid. Sur le forum numérique du quotidien Marca, écrit le club madrilène dans un communiqué, le juge lui a infligé une peine de 8 mois de prison et une interdiction de participer à ce forum pendant 20 mois. Poursuit le Real, qui précise que cet homme n'ira pas en prison à condition qu'il suive un programme sur l'égalité et la lutte contre les discriminations. Le 10 juin, 3 supporters de Valence avaient été condamnés à 8 mois de prison pour avoir proféré dans le stade de leur club en mai 2023 des insultes racistes visant l'attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Junior, qui avait provoqué une vague d'indignation internationale.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, le candidat républicain à la vice-présidence, J.C. Vance, a occupé le devant de la scène lors de la troisième et avant-dernière soirée de la convention nationale de son parti hier à Milwaukee, dans le Wisconsin. Le colistier de Donald Trump a adopté l'approche baptisée « l'Amérique d'abord » en matière de politique étrangère et de sécurité. Le compte-rendu sur place de Catherine Gibson, la correspondante de la VOA au Congrès. Le récit est de Jacques Aristide.
Devant le parti républicain mercredi, le sénateur J.D. Vance, choisi par Donald Trump pour le seconder dans sa campagne en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre, a appelé l'Amérique à choisir une nouvelle voie.
Nous en avons fini avec l'importation de main-d'œuvre étrangère. Nous allons nous battre pour les citoyens américains, leurs bons emplois et leurs bons salaires.
Relativement inconnu aux États-Unis, J.D. Vance, diplômé de la faculté de droit de l'université Yale, a fait partie de l'armée américaine pendant 6 ans avant d'être élu au Sénat représentant l'Ohio. C'est son épouse, Usha Vance, qui l'a introduit sur scène.
Il a été choisi pour aider notre pays à relever certains de ses plus grands défis. Je suis reconnaissante à vous tous pour la confiance que vous placez en lui.
Mercredi soir, c'était l'occasion non seulement pour Vance de se présenter au public américain, mais aussi de faire valoir ses compétences en matière de politique étrangère.
Together. Ensemble, nous veillerons à ce que nos alliés partagent le fardeau pour garantir la paix mondiale et à ce qu'il n'y ait plus de cadeaux pour les nations qui trahissent la générosité du contribuable américain.
Des délégués républicains disent ne pas être gênés par le manque d'expérience de Vance. Walter Goodwater vient du Texas.
En réalité, ce que nous élisons par rapport à lui, c'est un leadership potentiel. Il a prouvé ce potentiel. Il n'est pas comme nous, vieux fossiles.
Ils ne sont pas gênés non plus par ses critiques de Trump par le passé. Lori Schaefer, une déléguée républicaine de l'Illinois.
J'aime le fait qu'il soit jeune et qu'il puisse être façonné. Il a adopté l'Amérique d'abord, ce que j'apprécie également. Je pense que sous la tutelle de Trump, il peut aller assez loin.
Lors d'une soirée consacrée au thème « Rendre l'Amérique plus forte », le fils de Trump a résumé le choix que les électeurs sont appelés à faire.
C'est un choix entre les gens qui sont fiers de l'Amérique et ceux qui ont honte de l'Amérique. En fin de compte, c'est un choix entre l'Amérique en dernier et l'Amérique en premier.
La convention de Milwaukee se clôt ce jeudi soir avec le discours de Donald Trump, qui va formellement accepter l'investiture de son parti républicain pour la présidentielle de novembre. Sa première prise de parole en public depuis qu'il a survécu à la tentative d'assassinat de samedi dernier.
La population du Nigeria est en passe d'atteindre 377 millions de personnes d'ici 2050, ce qui souligne le besoin urgent de services de santé reproductive. Mais les barrières culturelles et religieuses compliquent souvent l'accès à la contraception, ce qui pose des problèmes économiques et de santé maternelle. Reportage à Abuja de Gibson Emeka Godwin, récit Claire Morin-Gibourg.
La population du Nigeria augmente rapidement et les services de planification familiale sont à la traîne. Les préférences culturelles et religieuses ainsi que les idées fausses sur le contrôle des naissances ne font qu'aggraver la situation. Philomena Okodua connaît bien ces défis. Autrefois opposée au planning familial, elle subvient aujourd'hui aux besoins de 6 enfants avec les maigres revenus qu'elle tire de son petit commerce. Elle regrette de ne pas avoir adopté le planning familial plus tôt.
Les choses vont très mal pour nous. Même pour répondre aux besoins de base, c'est une lutte. J'aurais aimé connaître les plannings familiales plus tôt. Je n'aurais pas eu autant d'enfants, mais peut-être 2 ou 3.
Selon la Banque mondiale, le taux de natalité du Nigeria est de 5,3 naissances par femme, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne mondiale. De plus, 23% des femmes mariées ne disposent pas de moyens de contraception, selon l'Institut Guttmacher. La religion, la culture et l'accès limité constituent également des obstacles. Kanan Doda, un religieux chrétien, et Ejike Orji, un défenseur du planning familial, expliquent comment ces facteurs influencent les décisions. Kanan Daoda.
Certains croient que l'on donne naissance à tout ce que l'on peut et que Dieu va pourvoir aux besoins de tout ce qu'il permet de faire vivre.
Monsieur Orji, lui, souligne que les Nigérians ont du mal à trouver des contraceptifs.
Les femmes nigériennes disent « je veux un planning familial », mais elles ne bénéficient pas de ces services. À l'heure où nous parlons, parce que le gouvernement fédéral n'a pas débloqué d'argent pour l'achat des produits, il n'y a plus de stock dans tout le pays.
La Journée mondiale de la population 2024 promeut la planification familiale en tant que droit humain. Monsieur Orji rappelle que les obstacles au contrôle des naissances violent les droits des femmes et augmentent les risques pour la santé maternelle.
En raison de l'absence des services de planification familiale appropriés, beaucoup de femmes ont des grossesses qu'elles ne souhaitent pas. Nous avons également constaté que si les femmes ont souvent des enfants, leur corps ne se rétablit pas correctement car beaucoup de nos femmes souffrent d'anémie. La seule chose qui puisse mettre fin à tout cela, ce sont des services de planification appropriés.
Une fécondité élevée pèse aussi sur l'économie du Nigeria. Paul Aladji, un économiste basé à Abuja, met en garde contre les conséquences de cette situation.
Dans le cas du Nigeria, où les ressources sont très rares, où la pauvreté est élevée, où la faim et les privations semblent évidentes, le maintien d'un taux de natalité élevé peut être un désastre. Les enfants non scolarisés se comptent en millions, voire en dizaines de millions. Le niveau de pauvreté est très élevé, en particulier chez les femmes et les enfants.
Malgré ces avantages, le financement de la planification reste insuffisant. Le plan du gouvernement nigérian vise à faire passer le taux d'utilisation des contraceptifs de 19% à 27% dans les années à venir, mais des ressources supplémentaires sont nécessaires. Selon les experts, l'amélioration du financement et de l'accès aux contraceptifs peut réduire considérablement la mortalité maternelle et renforcer l'autonomie des femmes et ainsi du pays tout entier.
La Libye a accueilli hier le forum transméditerranéen sur les migrations avec au menu la crise migratoire en cours. Ce forum visait à trouver des solutions durables aux défis posés par les flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe en soulignant la responsabilité partagée des pays d'origine et des pays d'accueil. Récit de Nani Talani.
Dans son discours, le Premier ministre libyen Abdul Hamid al-Dabaïba a souligné l'immense pression à laquelle la Libye est confrontée. Selon l'OIM, son pays a accueilli plus de 706 000 migrants en janvier.
L'Europe utilise tous les moyens et toutes les méthodes pour empêcher les migrants d'arriver. L'Afrique, depuis le sud, pousse ces personnes qui sont dans le besoin, qui souffrent de la soif, de la faim et du manque de moyens de subsistance et qui cherchent une vie meilleure. Nous nous trouvons en Libye sous la pression du nord et du sud.
Monsieur Dabaïba a critiqué l'approche actuelle qui se concentre sur le contrôle des frontières et les centres de détention. Il a fait valoir que les ressources financières considérables consacrées à ces mesures depuis plus de 50 ans n'ont pas résolu le problème.
L'argent utilisé pour les sauvetages doit être dépensé dans les pays africains et chez les personnes là-bas qui envoient des migrants. Il ne doit pas être dépensé en mer dans des bateaux de sauvetage, dans le désert ou dans des centres de détention en Libye ou en Europe.
Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, a qualifié la traite des êtres humains comme l'un des plus puissants trafics criminels au monde, qui permet à certains de gagner beaucoup d'argent en vivant sur le désespoir des personnes. L'immigration clandestine est l'ennemi de l'immigration légale, selon Madame Meloni.
La chose la plus importante que nous devons faire est de créer une nouvelle coopération entre l'Europe et l'Afrique. Je ne pense pas que l'approche de la charité soit la bonne. Je ne pense pas que l'approche caritative soit la bonne. L'approche prédatrice n'est certainement pas la bonne. La bonne façon de coopérer est une coopération d'égal à égal.
Le ministre d'État libyen en charge de la communication, Walid El Afi, a proposé d'investir directement dans le développement des pays africains.
Le développement est lié au soutien économique. Le marché du travail en Afrique est lié à des projets, mais les Européens estiment que les projets doivent être économiquement viables et réalisables. Les projets sont abordés d'un point de vue économique et non politique.
La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a soutenu que la situation ne peut être résolue sans s'attaquer aux problèmes dans les pays d'origine. En s'attaquant à la pauvreté, à l'instabilité et au manque d'opportunités à la source, les causes profondes de la migration pourraient être traitées plus efficacement.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Un nouveau groupe de policiers kényans est arrivé cette semaine en Haïti dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité dans le pays caribéen. Hier mercredi, les autorités haïtiennes ont décrété l'état d'urgence sécuritaire au niveau de 14 communes qui sont sous le contrôle des gangs. Cette mission, soutenue par l'ONU, est prévue pour une durée initiale d'un an. Pour un éclairage sur la situation au Port-au-Prince, Gabi Dorcy a joint le journaliste Yves Manuel. Il nous parle d'abord des réactions à l'ordre de désarmement des gangs émis par le Premier ministre Gary Conille.
Il y a beaucoup de réactions après l'appel du chef du gouvernement concernant la nécessité de déposer les armes, notamment les groupes armés. Cet appel est bien accueilli par certains, notamment ceux qui habitent dans les quartiers populaires ou sont contrôlés par des groupes armés. Le Premier ministre a passé de la parole aux actes parce que justement là où ils habitent, ils sont cloîtrés, ils ne peuvent pas circuler librement. Donc ils ont besoin qu'il y ait des interventions musclées dans ces quartiers afin qu'ils puissent vaquer librement à leur occupation.
Un nouveau contingent de policiers kényans, Yves Manuel, est arrivé dans la capitale haïtienne cette semaine. Parlez-nous un peu de la posture de ces agents. Où sont-ils? Que font-ils?
Bon, jusqu'à présent, les agents kényans commencent à patrouiller certaines rues de la capitale haïtienne. Par exemple, hier, ils ont été au Champ de Mars, là où est logé le palais présidentiel, donc le palais national. Ils ont patrouillé diverses rues, notamment au bas de la ville. Donc, les gangs armés ont échangé avec eux, mais jusque-là, on n'a pas encore eu de bilan. Donc, les policiers progressent. Donc, c'est ce que souhaite la population. Donc, il faut que les forces armées accompagnées des policiers kényans pénètrent dans des quartiers pour faciliter la libre circulation, la circulation des vies et des personnes. Donc, on a constaté la présence des policiers sur le terrain. Donc, on a demandé ça du côté de la population. Et donc ça commence à prendre de l'ampleur, hein, si je peux le dire ainsi.
Comment décrire le climat sécuritaire en Haïti? On a appris qu'il y a des groupes armés, des gangs comme on les appelle, qui ont laissé la région métropolitaine de Port-au-Prince pour aller mener leurs opérations ailleurs. Qu'en est-il exactement?
Bon, le climat sécuritaire est encore instable. Certes, il y a certains éléments armés qui commencent à quitter la capitale pour aller se réfugier dans les villes de province, mais il y en a beaucoup qui ont le contrôle de certains quartiers, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils kidnappent, ils tuent et ils les stockent à longueur de journée. Ils continuent leur exaction sur la population. En fait, je peux dire que on attend qu'il y ait des opérations. Certains disent que les gangs sont mieux armés et peuvent éventuellement faire face, hein. Donc on attend dans les jours qui viennent qu'est-ce que ça va donner, les affrontements sur le terrain entre les gangs armés et les policiers, que ce soit haïtiens ou et d'autres policiers, notamment qui font partie de la force multinationale de sécurité en Haïti.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.